se transmet pas comme ça. Non ?
Je peux pas toujours comme je veux.
Eh bien, on a eu quelques soucis, pour ne rien vous cacher, on a eu quelques soucis de démarrage. Décidément, il faut absolument que... Bonjour, c'est le groupe d'Amnesty International Évreux pour notre émission mensuelle. Je suis vraiment pas un expert de la technique, donc petit moment de panique. Et notre technicien habituel Ronan n'étant pas disponible, c'est bien dommage parce que quand il est là, tout baigne. Et quand c'est moi, ça ne marche jamais bien.
Alors, on a peut-être dit plein de choses.
Alors voilà, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais bon, ce n'est pas très grave. On démarre avec un peu de retard, excusez-nous. C'était bien involontaire. Donc, émission mensuelle d'Amnesty International. Ce soir, pour y participer, Françoise.
Bonsoir.
Patrice.
Bonsoir.
Et Edith.
Bonsoir.
Et c'est Françoise ce soir qui va vous donner le menu, l'ordre du jour, et qui va vous expliquer ce dont on va parler, qui ne manquera pas de vous intéresser. À toi, Françoise.
Bon, eh bien, je suis contente de vous retrouver, parce que je ne vous avais pas encore rencontré depuis le mois de septembre. Voilà. Bon, alors, nous commençons par quand même rendre hommage à André Raffestin, qui était membre de notre groupe et qui nous a quittés il y a 15 jours. Il s'occupait particulièrement de l'expo, et nous tenons vraiment à penser à lui ce soir. De bonnes des actualités qui vont arriver, là, nous allons avoir au théâtre, en liaison avec la scène nationale, à la Cave Boudin, le vendredi 23 mars, la pièce Petite Fleur. Petite Fleur est un texte et mise en scène de Fargas Assandé, une chorégraphie d'Alassane Congo, avec comme interprète Mobilier Yaga Bitang, un danseur Yao Kouassi et une musique d'Isaac Kemo. Voilà, cette pièce Petite Fleur donc, est parrainée par Amnesty parce qu'elle porte sur la violence faite aux femmes et quelqu'un de Paris, d'Amnesty, viendra faire participer au débat qui aura lieu après cette pièce. Donc retenez bien, la Cave Boudin, Petite Fleur, le vendredi 23 mars à 19h30.
On y sera.
Voilà. Ensuite, eh bien, je vous informe d'une soirée qui va avoir lieu à Pont-Audemer le samedi 10 mars sur le thème « Les droits s'éclatent ». Elle aura lieu au Théâtre L'Éclat, donc à Pont-Audemer. Elle est organisée par la LDH, par Réseau Sans Frontières et d'autres associations. Et elle a lieu cette soirée sous le signe du Pacte pour les droits et la citoyenneté que promeut la LDH. Ensuite, nous vous informons qu'une foire aux livres aura lieu à Val-de-Reuil du samedi 31 mars au dimanche 1er avril. Cette foire aux livres est organisée par un groupe d'Amnesty de Louviers.
Ah, c'est nos amis, on travaille beaucoup avec eux.
Voilà. Et n'oubliez pas, bien sûr, on vous l'a déjà annoncé, mais que nous aurons une expo, notre expo et notre foire aux livres le dimanche 20 mai avec peut-être un chemin des droits humains sur le thème « Faisons vivre les droits humains » avec d'autres assos. Voilà.
Voilà, on est en train de peaufiner ça. On va vous dire ça le mois prochain. Allez.
Oui.
À Patrice.
De plus ample renseignement très bientôt.
Alors, Patrice chausse ses lunettes.
Oui, oui. Voilà, voilà me voilà revenu. J'y prends goût. Je voulais vous lire un petit article concernant le travail des enfants. 306 millions d'enfants au travail. Selon les critères de l'Organisation internationale du travail, OIT, près de 306 millions d'enfants dans le monde sont occupés économiquement. Par occupation économique, il faut entendre toute activité relevant de la production générale, marchande ou non marchande, générée dans un pays sur une année donnée. Parmi ces 306 millions, il faut distinguer la part très importante de celles et ceux, 215 millions d'individus, qui, même s'ils ne remplissent pas les conditions d'âge requises, sont astreints à des travaux dangereux pour leur santé, leur intégrité physique et morale. Au sein de ces 215 millions d'enfants au travail dénombrés par l'OIT, il ressort que 74 millions d'entre eux sont des garçons et 41 millions sont des filles. D'autre part, 53 millions d'entre eux ont entre 5 et 14 ans et 62 millions entre 15 et 17 ans. L'agriculture est actuellement le secteur où se concentre le pourcentage le plus important d'enfants effectuant des travaux dangereux, 59%, suivi par le secteur des services, travail domestique ou extérieur, pour un total de 30%, et enfin l'industrie, ateliers, mines et bâtiments, où ils représentent 11% de cette catégorie. Si l'on considère les chiffres globaux, le nombre d'enfants concernés par une forme d'exploitation économique contraire au droit international a diminué sensiblement ces dernières années. Mais les chiffres restent tout de même significatifs et inacceptables, quand bien même plusieurs États ont fait adopter des lois interdisant cette pratique. Cela ne signifie pas que cette dernière a complètement disparu. Parfois, le contexte politique ou la conjoncture économique ont pour conséquence, comme l'indique cette nouvelle lettre de la Commission Enfants d'Amnesty International, de dénoncer le recours au travail des enfants. Lorsque dans certains pays, les individus de moins de 18 ans comptent pour plus de 50% de la population nationale, la tentation est forte pour certains de n'y voir rien d'autre qu'une ressource ou une main-d'œuvre peu onéreuse et parfois accommodante, et plutôt accommodante à exploiter. Face à l'urgence d'en finir avec cet abus, en 2006, puis à nouveau en 2010, l'OIT a relancé une campagne mondiale visant à l'élimination prochaine des pires formes de travail des enfants et la ratification universelle des conventions numéro 138 et 182 d'ici à 2016.
Allez, la parole à Edith maintenant.
Alors oui, on va peut-être juste faire un petit point par rapport à ce qu'a lu Patrice. Bon, bah, effectivement, le droit des enfants, c'est... ou le droit, enfin, les enfants au travail, ça fait partie aussi des préoccupations d'Amnesty quand leurs droits ne sont pas respectés dans les campagnes dignité. Donc là, c'est un état des lieux et c'est sur ça qu'on peut s'appuyer, nous, pour mieux comprendre ce qui se passe dans certains pays. Parce que moi, après, je vais vous parler d'un pays en particulier, c'est-à-dire l'Égypte. Donc, il faut que je fasse un petit peu de transition pour y arriver. Donc, l'Égypte, ça fait partie.
Je peux t'interrompre une seconde, Edith ?
Alors, continue, vas-y, fais-moi la transition.
Une petite information aussi, non, c'était pour faire suite au travail des enfants. Au droit des enfants, je rappelle que sur notre site local, sur euraso.fr, site d'Amnesty Évreux, vous avez les textes illustrés de la Convention internationale des droits des enfants qui est disponible et donc qui effectivement fait le point sur les textes sur lesquels l'essentiel des États se sont engagés, qu'ils ont signés et qu'ils respectent pour certains d'entre eux très mal. Donc vous avez l'intégralité du texte et vous avez une illustration qui va avec, qui est consultable en ligne sans problème.
Voilà, et ce que je voulais finir dans le texte de Patrice, on ne parle pas aussi des enfants soldats. Ça, c'est un grand combat d'Amnesty parce que c'est un autre travail des enfants dans certains pays où ils sont forcés, raptés par des groupes armés et de se retrouver embrigadés dans des conditions complètement insupportables pour le sort des enfants. Alors, moi, Égypte. Égypte, le 25 janvier, cela faisait un an qu'a eu lieu les événements en Égypte et que Hosni Moubarak est parti, donc a arrêté le régime d'Hosni Moubarak. Donc les Égyptiens ont fêté ça par des manifestations. Amnesty, depuis un an, sans juger ce qui se passe en Égypte, est très vigilant par rapport au fait que c'est l'armée qui a repris le pouvoir en Égypte et considère qu'il y a aussi à aider beaucoup de gens, dont les femmes. Là-bas, on a fait des pétitions pour que le droit des femmes ne soit pas oublié dans dans les nouveaux textes de loi égyptiens. Amnesty pense aussi que les autorités égyptiennes n'ont pas toujours rendu publiques les consignes qui sont transmises aux forces de sécurité sur le recours à la force, logiquement pendant les manifestations. Plusieurs fois, Amnesty et d'autres organisations ont demandé qu'il y ait des textes sur lesquels les forces de l'ordre puissent s'appuyer quand elles s'occupent de façon des fois un peu violente des gens qui manifestent pacifiquement. Donc, les forces de l'ordre, elles ont utilisé énormément le gaz lacrymogène, des matraques, des balles en caoutchouc, des munitions réelles, notamment des cartouches de fusil pour disperser des manifestants, et ont à plusieurs occasions foncé à bord de véhicules blindés sur des foules compactes pour les disperser et forcément ont blessé des manifestants. Depuis le soulèvement, les autorités militaires ont jugé 12 000 citoyens égyptiens et en ont condamné environ 8 000 pour des crimes tels que brutalité ou violation du couvre-feu. Les condamnations prononcées vont de quelques mois à quelques années de prison. Certains accusés ont même été condamnés à mort. Les tribunaux militaires ne sauraient rendre justice. Donc si vous allez sur le site d'Amnesty, il y a actuellement des pétitions pour justement demander au Conseil suprême des forces armées, qui actuellement gouverne en Égypte, de mettre un terme au procès militaire des civils, puisque tout est dans les mains des militaires actuellement. Alors il y a aussi un autre, on va dire une autre mauvaise nouvelle pour nous, c'est que depuis la prise du pouvoir du Conseil suprême des forces armées, de nouvelles infractions passibles de peine de mort ont été inscrites dans la législation égyptienne. Dans ce contexte, aucun des partis représentés au Parlement égyptien ne s'est engagé à abolir la peine de mort. Donc voilà, beaucoup de regards, quelquefois de l'inquiétude, une surveillance, on va dire. Alors on va quand même sortir par une bonne nouvelle au niveau de l'Égypte. On a appris qu'un blogueur égyptien, Michael Naïb Sadat, a été libéré fin janvier après 10 mois de prison. Il a été gracié, tout comme près de 2000 autres prisonniers condamnés par des tribunaux militaires. Alors Patrice va nous lire son témoignage.
Voilà. Alors, bien sûr, bonne nouvelle pour le blogueur égyptien Michael Nabil Sanad, qui a été libéré fin janvier après 10 mois de prison. Ok. Alors, donc, il nous le dit. Je ne peux pas remercier le Conseil suprême des forces armées de m'avoir libéré, car le fait de m'incarcérer était une erreur. Je n'aurais jamais dû être emprisonné. Je suis heureux de retrouver mes amis et de continuer à faire la révolution contre la dictature en Égypte. C'est le début d'une nouvelle ère, à une autre échelle, du combat pour nos droits en Égypte. Je suis très reconnaissant à Amnesty International qui a tant fait pour obtenir ma libération. Je veux qu'ils sachent que j'ai reçu des centaines de lettres de membres d'Amnesty International du monde entier et ces lettres m'ont aidé à trouver encore plus de force pour me battre et à poursuivre mon combat contre le Conseil militaire en Égypte. Voici mon message pour vous tous. Vous m'avez aidé à arriver jusqu'à ce jour. Vous m'avez aidé à me sentir mieux. Je vous remercie.
Voilà, bon, c'est tout à fait un témoignage typique qu'on reçoit effectivement au niveau d'Amnesty International et qui nous fait toujours chaud au cœur quand on reçoit ce genre de choses et qui prouve que notre action est fondamentale, utile et juste. Je pense qu'après, il était prévu de faire une première pause musicale.
Musique.
Voilà, je vois que Françoise me fait des signes.
Elle voudrait jouer
derrière.
Du piano, Françoise.
Je savais, oui, je pense que c'était pour. En fait, elle va créer un cours de musique dans le cadre d'un Amnesty International, donc elle donne ses premiers. Donc, je vais lancer le CD. On m'excusera parce qu'encore une fois, la technique est en mon ennemi.
Attention, le stress monte chez Didier.
Exactement.
Le CD va-t-il démarrer
donc,
ou allons-nous
si
être obligés de chanter
allez,
là, ça va être dur.
Si tout va bien, vous allez entendre de la musique. À nous.
Attention. Ouais. Day. It's your day.
Bien, nous voici revenus sur l'antenne de Principe Actif, donc pour la suite de notre émission. Juste pour vous parler de ce qu'on vient d'entendre, la musique qu'on vient d'entendre, c'était Peter Gabriel avec Youssou N'Dour, un morceau qui s'appelle Shaking the Tree et qui parle du droit des femmes, puisque c'est la journée internationale du droit de la femme. Ça va faire bondir Edith si je dis ça.
Mais c'est trop tôt, c'est tout le temps.
Voilà. Oh. Et donc, un petit coup de chapeau aussi à Youssou N'Dour qui est un soutien d'Amnesty depuis très longtemps. Et qui a participé à cet enregistrement. Voilà. Bien, on continue notre émission sur un sujet aussi grave d'actualité qui est la situation en Syrie, bien évidemment. Vous en entendez parler à tous les flashs d'informations, à la télévision, à la radio. Donc Amnesty International, évidemment, continue à demander inlassablement le rétablissement des droits humains en Syrie et l'arrêt des massacres de la population civile. Je vais vous faire part du dernier communiqué qui est daté d'hier et qui est sur le site d'Amnesty. Les organisations, alors c'est le titre, les organisations humanitaires doivent être autorisées de toute urgence à se rendre à Homs. Il faut que les autorités syriennes mettent immédiatement un terme aux bombardements incessants et permettent aux organisations humanitaires d'accéder immédiatement et librement aux zones concernées. Les témoignages que nous recevons de Homs sont de plus en plus terribles. Les gens manquent des commodités les plus essentielles, a dit Anne Harrison, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International. Des habitants de Bar Arn ont raconté à Amnesty International que les bombardements et les tirs croisés avaient détruit les réseaux d'électricité et d'eau et qu'il y avait peu de chances que ceci soit rétabli. En l'absence d'électricité, les habitants ne peuvent plus réfrigérer les aliments, pardon, ce qui aggrave encore la plus sévère pénurie de nourriture, notamment le lait pour les bébés. La zone manque aussi cruellement de matériel médical, de médicaments et de personnel de santé. Certains ont dit à Amnesty International qu'il n'y avait plus qu'un médecin prodiguant des soins à l'hôpital de fortune de Baran. Amnesty International a appelé les États qui participaient à la réunion des Amis de la Syrie à Tunis le vendredi 24 février à mettre les droits humains au cœur de leurs discussions et à tenir pleinement compte des répercussions de toute proposition sur ces droits. Elle a aussi déclaré qu'il convenait d'envisager sérieusement l'envoi d'une mission de surveillance des droits humains menée par les Nations Unies en Syrie. Et elle a engagé les États membres de l'ONU à étudier cette possibilité. Depuis le retrait des observateurs de la Ligue arabe, la violence s'est considérablement accrue en Syrie. Face à la détérioration persistante de la situation, les pays voisins de la Syrie ont la responsabilité d'aider les Syriens à fuir la violence en supprimant tous les obstacles à la frontière. Une fois arrivés dans ces pays, les Syriens doivent y bénéficier d'une protection et en particulier n'être en aucune circonstance renvoyés de force en Syrie. De nombreux Syriens se trouvant à l'étranger, notamment dans des pays voisins, ont signalé avoir été harcelés par les services de renseignement syriens. En Jordanie, des réfugiés ont également raconté aux chercheurs d'Amnesty International en visite dans ce pays mi-février qu'ils ne recevaient généralement que des soins très limités de la part des Jordaniens ou des organisations médicales internationales, bien qu'ils souffrent souvent de graves blessures provoquées par des balles, des éclats d'obus ou la torture. Nous comptons sur l'ensemble des voisins de la Syrie pour fournir un hébergement et des soins médicaux appropriés à tous ceux qui ont été chassés de chez eux par la violence incessante. Si nécessaire, les membres de la communauté internationale doivent y aider par un soutien financier ou matériel, a également déclaré Anne Harrison. Par ailleurs, Amnesty a appelé tous les pays
à ne contraindre aucun ressortissant syrien à retourner dans son pays, compte tenu de la détérioration importante de la situation politique et relative aux droits humains ces derniers mois, ainsi que du caractère toujours imprévisible des événements sur ce terrain. Et enfin, Amnesty International a demandé à plusieurs reprises que la Cour pénale internationale soit saisie de la situation en Syrie. Elle a aussi réclamé l'instauration d'un embargo total sur les armes et un gel des avoirs du président syrien Bachar el-Assad et de ses proches. Les conclusions de la commission d'enquête des Nations Unies rendues publiques le mercredi 22 février confirment, au même titre que celles d'Amnesty, que les attaques généralisées et systématiques menées contre les civils constituent des crimes contre l'humanité et que d'autres violations flagrantes des droits humains ont été commises. Ces conclusions montrent que des commandants militaires et des membres haut placés du gouvernement syrien étaient, semble-t-il, au courant de ces violations et ont donné leur accord. Amnesty a déclaré que la liste conditionnelle des noms des responsables présumés de crimes contre l'humanité jointes aux conclusions de l'ONU était un premier pas vers l'obligation de rendre des comptes et constituait une raison de plus de saisir la Cour pénale internationale. Alors, vous pouvez intervenir en continuant à signer. Il y a une pétition actuellement qui est en cours, je l'ai signée tout à l'heure, qui est destinée au ministre des Affaires russes, car comme on le sait, la Russie soutient le régime de Bachar el-Assad, pour user de son influence, pour stopper la répression en Syrie et surtout stopper la vente d'armes en Syrie qui continue de par la Russie et de par la Chine. Donc vous pouvez continuer à la signer. Bien sûr, Amnesty continuera à faire pression auprès de l'ONU et continuera à faire pression pour que Bachar el-Assad comparaisse un jour devant un tribunal pour crimes contre l'humanité. Et comme on est têtu, on ne lâchera pas. Voilà.
Bon, eh bien, moi, je veux vous parler de bonnes nouvelles quand même concernant l'abolition de la peine de mort. La République dominicaine, le 27 janvier, a adhéré au protocole de l'abolition de la peine de mort. Le 26 janvier, c'est la Lettonie qui a adhéré à ce protocole. Aux USA, le 23 janvier, dans l'État d'Ohio, Joe D'Ambrosio a été disculpé de la peine de mort. Au Delaware, Robert Gatiss a obtenu une réclusion à perpétuité, mais n'a pas été exécuté. En Asie, au Japon, le nouveau Premier ministre veut reprendre les exécutions. Donc ça ne fait pas partie des bonnes nouvelles, bien évidemment.
Oui, parce que vous vous rappelez, on avait des politiques qui étaient beaucoup plus sensibles à la peine de mort à un moment au Japon, et on espérait qu'il allait y avoir une loi qui allait être votée pendant qu'ils étaient au pouvoir, et malheureusement...
Oui, alors il y a une pétition en ligne à ce sujet. Hein. À Singapour, Yong Wee Kong n'a pas été exécuté. Et il y a une élection présidentielle qui va arriver, si mes souvenirs sont bons, qui va avoir lieu là. Donc il y a quand même une action urgente en cours aussi pour Singapour. En Arabie Saoudite, par contre, 3 hommes risquent d'être exécutés. En Égypte, comme l'a dit tout à l'heure, aucun des partis ne s'est engagé à abolir la peine de mort.
Ah, j'avais pris un petit morceau de ton papier. Mince.
En Irak, 65 personnes auraient été exécutées depuis le début de l'année. De là découle une action urgente aussi, que vous pouvez trouver sur le site. Alors, Amnesty a fait quelques statistiques là, récentes. Les pays abolitionnistes de droit pour tous les crimes se trouvent au nombre de 97. Pour les crimes de droit commun, au nombre de 8. Donc, en pratique, les pays sont au nombre de 35. Donc, abolitionnistes, 140. Non-abolitionnistes, 38. Il y a aussi une action pétition concernant une pétition concernant Reginald Clemens, mais qui se termine là. Concernant la peine de mort en Iran, il y a une action aussi qui dure jusqu'en juin. Et sur le web, vous pouvez trouver une action donc, concernant le Premier ministre du Japon. Un rapport important va sortir le 27 mars 2012. C'est le rapport annuel sur les condamnations et les exécutions en 2011 dans le monde. Nous le signalons, parce que c'est un événement quand même assez important et un document intéressant.
Voilà. C'est-à-dire, de toute manière, il faut vous dire, la peine de mort, Amnesty, on en parle tout le temps. On surveille tout le temps, on essaye de voir qu'est-ce qui peut progresser et on est prêt à signer pour que cette peine disparaisse.
C'est sûr. Patrice, à toi.
Voilà, eh bien, je reviens pour vous donner un peu des bonnes nouvelles et aussi une suite d'informations concernant une personne du Mexique. Ça avait été évoqué ici en fin d'année dernière.
Plus qu'évoqué, rappelez-vous, la chanson...
C'était lors d'une émission du mois de novembre.
Mina et Sabine.
Elle avait chanté pour soutenir ces femmes qui faisaient partie du marathon des signatures.
Bon, alors, moi, je ne vais pas chanter, mais je vais vous dire.
Ah, c'est dommage. Après, Françoise qui voulait jouer du piano, on espérait que tu continues les chœurs, mais ce n'est pas pour aujourd'hui.
Mexique. Valentina ébranle le système judiciaire. Un grand pas a été franchi le 15 décembre dernier. L'État mexicain a reconnu officiellement et publiquement sa responsabilité internationale dans le crime subi par Valentina Rosando Cantu en 2002 lors d'incidents distincts. Valentina Rosando Cantu et Inés Fernandez Ortega ont été violées par des soldats après avoir subi un interrogatoire. L'annonce a été faite au cours d'une cérémonie en présence de hauts représentants du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense de l'État de Guerrero, de nombreux représentants de la communauté internationale ainsi que des médias. Un acte symbolique similaire doit avoir lieu pour Inés Fernandez Ortega. Depuis 2003, Amnesty International mène campagne en faveur de ces deux femmes. Le chemin n'est pas fini. La justice civile doit aussi poursuivre et condamner les responsables directs des agressions subies il y a près de 10 ans. En effet, le 12 août dernier, le dossier de Valentina et Inés a enfin été confié à des tribunaux civils à la suite d'un arrêt rendu par la Cour suprême. Cette étape historique n'aurait pu être atteinte sans la mobilisation internationale impressionnante autour de ces deux femmes et dont le marathon des signatures de décembre dernier a été une étape de plus. Le Centre pour les droits humains. Ah, c'est difficile à prononcer, ça.
Ah, de l'espagnol, un peu ?
Non.
Sabine n'étant pas là ce soir, on n'aura pas notre
C'est une langue locale, visiblement. Non, c'est une langue locale du Chachinolan.
Voilà, c'est pas mal. Tu dois y être.
Tu ne le parles pas couramment, Patrice ? C'est surprenant, quand même.
C'est pas de l'espagnol. Attendez, il y a encore un autre exercice avant la fin de la phrase.
Bon, allez, vas-y,
qui accompagne Inès et Valentina, nous a envoyé un message de remerciement, Noma, qui signifie merci en langue Mefa. Donc
Mefa, c'est le local.
Un dialecte. Voilà.
C'est le peuple Mefa dont font partie ces deux femmes.
Et pour confirmer le bien fondé et puis surtout les résultats du marathon des signatures, on va changer un petit peu de secteur.
Ah oui, je crois que tu vas partir en Azerbaïdjan.
Voilà, on va partir en
Azerbaïdjan. Est-ce que j'ai le droit de parler avant l'Azerbaïdjan ?
Peut-être.
Ah, merci Patrice, je te sens quand même. Voilà, parce que moi j'ai en plus un petit point pour dire que ça continue d'avancer, c'est-à-dire qu'on a appris qu'avec une grande satisfaction, la date de l'acte de reconnaissance de responsabilité de l'État mexicain pour Valentina et pour Inés dans le crime qu'elles ont subi, et a été fixé le 6 mars 2012. Donc là, vraiment, voilà, on avance dans tout ce qui est législatif. Donc on va suivre le déroulement de cet événement et après, on va continuer les demandes de justice et de réparation, comme Patrice vous a expliqué.
Oui, alors donc là...
Alors vas-y, dans l'Est, là, tu pars dans l'Est.
Au bord de la mer Caspienne. Jabbar Salavan, c'est un jeune militant de 20 ans et grâce au marathon des signatures, il a été remis en liberté dans la soirée du 26 décembre après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle. Je ne sais pas si la phrase est de lui, mais enfin, on peut citer quand même. Amnesty International symbolise les droits humains et la liberté, pas seulement en Azerbaïdjan, mais partout dans le monde. Je suis reconnaissant pour tous les efforts déployés par votre organisation et d'autres mouvements qui se battent pour la liberté en Azerbaïdjan.
Ah, voilà. Encore des témoignages de soutien et des réussites dont on ne saurait qu'être fier, disons-le. Voilà.
Et de se dire que tous les petits mouvements, toutes les petites lettres, toutes les signatures, ça fait des petites rivières, des grands fleuves et que ça arrive aux gens et que ça les soutient. Alors, moi, je vais continuer à vous parler aussi de tout ce qui fait le quotidien d'un militant d'Amnesty. Donc, on a parlé de peine de mort, les femmes à la violence faite aux femmes. Et là, on va parler aussi des droits économiques et sociaux, des droits que chaque personne a pour que son logement soit respecté. Et là, ça se passe en Afrique, ça se passe au Nigeria, et ce sont des gens qui habitent, effectivement, ce n'est pas des habitations, c'est plutôt du type bidonville au niveau des berges de Port Harcourt au Nigeria. et il y a des expulsions forcées. Alors, je vous donne le premier texte. Après, je vais vous faire des petites explications. Donc, je trouve que le texte que nous a adressé Amnesty, voilà, c'est « Dimanche 12 février, des milliers de personnes sont menacées d'une expulsion forcée imminente de leur logement à Port-Harcourt après que le gouverneur de Rivers, donc c'est le gouverneur de la région, ait dit à la communauté que leurs habitations avaient allaient être démolies. 15 bâtiments ont déjà été démolis dans le quartier, rendant une centaine de personnes sans abri. » Alors voilà la phrase du gouverneur. Alors là aussi, on va citer un peu dans le texte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous donne 7 jours pour dégager. Si vous n'êtes pas content, collez-moi un procès. C'est par ces mots criés depuis sa voiture aux résidents et résidentes de Railway Comput que le gouverneur de Port-Harcourt leur a annoncé leur expulsion imminente. Le 6 février, le gouverneur de l'État de River a rendu visite aux habitants vivant le long de la voie de chemin de fer désaffectée et annoncé à eux-mêmes qu'ils avaient 7 jours pour quitter les lieux avant que leur maison ne soit démolie. Les résidents n'ont pas été consultés sur la démolition, n'ont reçu aucune notification écrite, ne se sont vus offrir aucune compensation et ou solution de relogement adéquate. Ils seront sans abri, vulnérables, à de multiples violations de leurs droits si la démolition a bien lieu. Alors, le nombre exact de ces résidents n'est pas connu, car aucun recensement n'a été fait, mais il s'agirait de plusieurs milliers de personnes qui vivent pour certains dans cette zone depuis les années 90, survivant d'une économie informelle ou de petits commerces. Aucune raison n'a été évoquée pour la démolition, mais déjà le 27 janvier, 13 maisons, 2 églises avaient été démolies. Toujours sans aucune notification verbale. Le 20 janvier, le gouverneur leur disait qu'il n'avait plus qu'une semaine pour quitter la zone. Le 23, il y a eu des officiels de la commission du développement urbain de l'État de River qui sont arrivés accompagnés de policiers et de soldats et qui ont expliqué aux résidents que des bulldozers allaient arriver et qu'ils devaient partir. Donc ça a vraiment été une montée de stress pas possible pour cette population. Le 27, le bulldozer accompagné de forces de l'ordre a démoli des bâtiments et il y a déjà 100 personnes qui se sont retrouvées sans abri. De nombreux d'entre elles dorment depuis dans la rue ou habitent chez des voisins dont les maisons n'ont pas été démolies. Et là, en février, 3 semaines plus tard, aucun d'entre eux n'avait été relogé ou reçu la moindre proposition ou aide d'urgence ou de compensation. Alors, en février, et de même déjà depuis, on va dire, le lancement du marathon des signatures, donc depuis novembre, les membres d'Amnesty France écrivent, mais aussi de plusieurs sections. Et là, en février, dans le cadre du réseau des actions rapides, aux expulsions forcées, il y a eu des demandes de d'autres sections. Alors, un type aussi un peu, nous, alors on va dire, on est un petit peu, on a connu Internet, mais on n'est pas trop Facebook, Twitter, mais là, on voit que ça peut faire avoir du poids, puisqu'on a demandé sur la page Facebook du gouverneur que leur lui soit adressé des messages, des militants, des internautes, lui demandant l'arrêt des expulsions forcées. Cette action a été relayée par chaque membre de groupe qui travaille par rapport aux droits économiques et sociaux, et si bien qu'en l'espace de 2 jours, plusieurs centaines de messages des 4 coins du monde ont été postés sur son mur, rendant visible la désapprobation très forte des gens à l'international. Bravo, Amnesty remercie tous les gens qui ont participé. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis... on a l'impression que les expulsions imminentes sont suspendues. Bon, on ne va pas crier victoire, mais c'est déjà aussi un petit pas. On va continuer aussi à les soutenir.
Bon, Didier, tu nous mets un peu de musique ?
Un peu de musique, oh, d'accord, un petit peu de musique. Alors, allons-y. Le temps que je règle les boutons, hein, mon ennemi principal.
Bon, la musique, c'est venu tout à l'heure. Oui. Allez, 1, 2, c'est bon.
Feu de tout bois, les nuits où on en trouve. Je dors sous ton journal pour le froid y'a que la couve. Je prends mal au petit matin, je m'invente des trucs de grand. Mentir c'est pas mon truc, je me coupe en me rasant. Oh, au bout y'a tout, au fond y'a rien. Y'a que le diable en hiver qui peut faire. Thank you.
charme au docker du stop à l'avenir. Vous qui sortez couverts d'une petite pièce messie. Je retrouve mes associés dans la hutte en carton. La pluie sur le pavé, c'est férié, on se fait le pont. Oh, oh. Diable en hiver qui peut faire malin.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on vient d'entendre Paul Personne, c'est mon...
Favori.
Le favori, voilà, voilà. Mais c'est quelqu'un qu'on n'entend pas souvent à la radio, donc moi je suis content quand je viens à la radio, je vous passe un morceau de Paul Personne.
Puis comme Ronan n'est pas là, et souvent c'est Ronan qui nous file...
Ronan, il vient d'arriver en fait, on va vous le dire, on va vous trahir les secrets. Ronan nous a repris en cours d'émission, allez Ronan, dis bonjour.
Bonsoir tout le monde.
Ronan, la Bretagne revient.
Ronan rentre de Bretagne, voilà. Donc, on va reprendre le fil de l'émission. Donc, je vais vous dire quelques mots sur un problème qui est probablement à la fois bien et mal connu, je dirais. Qui est un problème, les sources que je vais vous citer ne viennent pas directement d'Amnesty, mais c'est un problème qui concerne directement les droits humains fondamentaux. Un petit rappel, l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme précise que chaque individu a le droit à la vie, ce qui est une évidence. Et deuxième rappel, à l'heure actuelle, effectivement, il y a sur 7 milliards en gros d'habitants, 1 milliard d'humains qui ne mangent pas à leur faim. C'est un deuxième chiffre qui est connu. Et souvent, quand vous entendez ça aux informations, on vous évoque la fatalité, les famines, les intempéries, les mauvaises récoltes, les sécheresses, les inondations, etc. Bien sûr que tout ça joue, mais alors je vais citer Jean Ziegler, pour ceux qui le connaissent, qui est un économiste d'origine suisse et qui a été longtemps rapporteur spécial à l'ONU pour le droit à l'alimentation, qui est donc un spécialiste de la question. Et qui a fait campagne depuis quelques années pour dire qu'en fait, le problème ne vient pas du tout de là. Qu'à l'heure actuelle, la Terre a les moyens, d'après les recherches des agronomes, la Terre a les moyens de nourrir 12 milliards d'habitants sans problème, sans qu'il y ait aucun problème de famine. Or, on n'est que 7 milliards, donc il n'y a pas de problème de production. Il y a un problème, par contre, de distribution, c'est-à-dire un problème lié au système économique et principalement à la spéculation financière sur les denrées alimentaires de base, c'est-à-dire principalement le riz, le blé, le maïs, etc. Alors pourquoi ce phénomène-là ? C'est parce qu'en fait, les prix augmentent constamment. D'ailleurs, ça, on a pu s'en rendre compte même chez nous. Le prix de la tonne de blé a dû doubler depuis un an et demi, la tonne de riz aussi, etc. Pourquoi tout ça ? Encore une fois, ce n'est pas les mauvaises récoltes. C'est parce qu'en fait, certaines institutions financières spéculent sur ces denrées-là. Et ça se passe principalement à la bourse de Chicago. C'est ce que Jean Ziegler explique. Et en fait, ces fonds d'investissement, puisqu'il s'agit d'eux, achètent des bons, non pas de la matière première principalement, qu'ils ne voient jamais, mais achètent en fait une partie de la récolte avant la récolte chez les producteurs, la font stocker dans des silos, toujours à distance, ils ne la voient jamais cette production-là, ils la font stocker en attendant effectivement que le cours augmente. Et quand le cours a augmenté, qu'ils estiment que leur gain a été suffisant, ils la remettent en vente sur le marché. Alors pour les producteurs, c'est entre guillemets une sécurité, parce que les gens qui produisent, du moins dans les pays développés, sont payés avant même la récolte. Donc pour eux, c'est une sécurité à l'avance sur leur revenu à venir. Par contre, pour les consommateurs, surtout les consommateurs des pays pauvres, bien évidemment, c'est une catastrophe.
puisque cette spéculation sert en fait à tarir le marché. Ce qu'il faut voir à l'heure actuelle, c'est que cette spéculation, elle le représente en volume. Et ça, c'est un chiffre absolument qui, moi, m'a étonné dans ce que j'ai lu avant-hier là-dessus. En volume, ne représente que 7% de la production mondiale. C'est-à-dire que la spéculation en tonnage, je ne pourrais pas vous donner les chiffres de mémoire, mais ne représente que 7% de la production globale de riz, de maïs et de blé. Mais que ça suffit à faire évoluer les cours dans le sens qu'on sait, c'est-à-dire à les faire exploser. Parce que ces spéculateurs stockent la marchandise tant que le cours n'a pas augmenté et la remettent sur le marché quand elle a augmenté. Évidemment, cela participe largement au fait que 1 milliard d'individus dans le monde ne mangent pas à leur faim. Ce qui fait dire à Jean Ziegler et Jean Restorella que ces spéculateurs devraient être jugés pour crimes contre l'humanité. Bon, on peut ou pas partager son point de vue et qui est un petit peu, entre guillemets, extrémiste. Mais ça, bien évidemment, c'est une atteinte au droit fondamental qui est le droit à la vie. On sera tous d'accord là-dessus. Et c'était une préoccupation qui recoupe celle d'Amnesty dans les droits économiques, sociaux et culturels. Il est bien évident que tant que les gens sont maltraités par la famine, il est évident qu'ils n'ont pas les moyens de vivre correctement. Donc, si vous avez l'occasion de lire sur Internet les articles de Jean Ziegler, n'hésitez pas. Il passe aussi de temps en temps à la radio. Et écoutez-le, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant et ça vous apprendra beaucoup sur des choses qui ne sont jamais dites, ni sur TF1, ni sur Antenne 2, à ma connaissance, ou trop peu, et qui font que cette famine, en fait, n'est pas du tout une fatalité, mais principalement une conséquence des actes des hommes. Voilà. On va continuer, Françoise,
oui, alors qui moi, à l'ordre je vous du parle jour continue. Des droits humains à l'épreuve des armes. Donc, il y a un traité sur le commerce des armes aux Nations Unies qui est en cours. Il y a une rencontre des membres d'Amnesty France avec les autorités qui a eu lieu avant les 13 et pour la période du 13 au 17 février. Et à cette occasion, de nombreux parlementaires ont été interpellés par les militants. Le 9 février, il y a une conférence avec Oxfam et CCFD par rapport au printemps arabe. Et le Soudan a aussi admis la nécessité d'un traité contre les armes. Il y a un nouveau rapport qui sort. Pas d'armes pour violer les droits humains. Il faut un traité efficace sur le commerce des armes. Ce traité, je crois, devra avoir lieu début juillet, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, il doit être signé normalement à l'ONU début juillet. Il y a encore des discussions et qui sont assez tendues, visiblement, puisque certains États freinent des cas de fer.
Voilà. Et donc, vous avez à ce sujet aussi une action en ligne par rapport au Tchad, au sujet d'Ibni, et vous avez des planches à signer si l'occasion s'en présente, ou bien cette action en ligne par rapport à ce monsieur-là, Ibni.
Et on a déjà écrit pour lui, c'est quelqu'un qu'on connaît, même c'est pareil, nous on les connaît par les photos, par le cas, parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaye de savoir un peu ce qui s'est passé malheureusement pour lui.
Voilà, je passe la parole à Patrice.
Patrice, c'est à toi sur un sujet que j'ignore parce que je n'ai pas le papier de Françoise sous les yeux.
C'est au sujet de la COFAS.
Voilà, la dernière fois, Edith, vous avez fait un exposé très précis sur la COFAS. Pardon,
on a Renan qui nous surveille. Parlons dans le micro.
Le technicien titré est revenu et fait des précisions.
Voilà, il travaille.
Il a raison.
Et donc, pour vous indiquer que nous avions commencé cette action, une dizaine de questions, a priori, ont été posées au gouvernement français, dont une émanant d'un député local, Guy Lefranc.
Voilà, on lui a écrit,
suite à une intervention du groupe d'Amnesty.
Donc c'est pour demander effectivement que l'État soit très vigilant quand il donne son accord pour que des entreprises à l'étranger puissent... c'est-à-dire que les sous un petit peu que l'État cautionne, ça n'aille pas dans des entreprises où les droits de l'homme ne soient pas bien respectés. En gros, c'est ça. Enfin, écoutez.
Qu'il y a un respect des droits fondamentaux au niveau des investissements extérieurs de la France.
Voilà, c'est très bien dit, Didier.
Comment donc l'argent et les droits humains ne feraient pas bon ménage.
Voilà, et donc on est content aussi. Et moi, ce que j'aime aussi pointer un peu, c'est que nous, on a un député, c'est aussi, on a voté pour lui, ou on n'a pas voté pour lui, mais c'est lui qui nous représente. Et il faut toujours penser que, comme Amnesty, nous, on écrit des lettres à des autorités pour dire qu'il faut qu'ils regardent sur le cas des personnes, pour que les droits soient respectés partout. Mais commençons déjà chez nous, nos élus, C'est aussi notre façon, nous, de faire bouger la loi par rapport à la France ou d'interpeller nos politiques. Il ne faut pas hésiter. Alors, il faut voter aussi pour ça.
C'est quelque chose dont on a peut-être déjà parlé dans les émissions. Enfin, je fais une aparté, mais qu'il est toujours bon de rappeler, c'est que le groupe d'Evreux, comme tous les groupes d'Amnesty, interpelle régulièrement leurs députés. On est déjà allé en voir, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Et on est régulièrement, effectivement, les questions qu'on leur pose sont relayées au sein du Parlement et ils nous font part des questions qu'ils ont posées et des réponses qu'ils ont reçues. Encore une fois, ça continue, c'est toujours une optique pour secouer le cocotier, dirons-nous, dans le bon sens du terme. Donc on le fait comme tous les groupes d'Amnesty le font.
Voilà. Et il y a les députés, mais il y a aussi les sénateurs. Il ne faut pas les oublier.
Bien sûr. Non, quand je dis députés, c'est en fait, dans ma tête, c'est tous les élus, tous les représentants de la République.
C'est toujours à moi. Ouh là là.
C'est à Edith qu'elle n'avait pas l'air au courant qu'il fallait qu'elle continue.
Mon conducteur est un peu loin là. Alors moi, je voulais juste vous raconter une petite histoire qui finit bien. C'est quand même pas mal aussi, ça, Amnesty. Vous savez, quand on vous parle d'action urgente, c'est la problématique d'une personne pour laquelle il faut rapidement intervenir en écrivant, en envoyant des mails. Et donc, j'ai reçu une action urgente que j'allais renvoyer aux membres du groupe et aux gens aussi qui sont partants pour faire un mouvement, faire un geste pour les droits de l'homme. Et puis, je l'ai reçue. Et puis, un peu après, j'ai reçu une bonne nouvelle. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé et comment, effectivement, la démarche de chacun peut aider des gens, même très loin. Donc là, ça se passe au Soudan. Hein, Soudan, Afrique, le petit coin là-bas, un pays où il y a eu beaucoup de mouvements politiques depuis des années. Eh bien, on avait appris le 25 janvier que 6 membres d'un mouvement politique, Jirifna, avaient été arrêtés après avoir participé à un forum public sur les droits humains, qu'ils risquaient d'être victimes de tortures et d'autres formes de mauvais traitements. Alors, ces jeunes étudiants font partie du mouvement Jirifna, qui signifie « on en a marre ». Mouvement qui a été créé en octobre 2009, à l'approche des élections présidentielles au Soudan, pour faire campagne contre le président Omar el-Béchir et le Congrès national parti au pouvoir au Soudan. Donc c'est un mouvement de contestation, mais un mouvement de contestation pacifique. Donc ces jeunes étudiants ont été arrêtés lors d'un rassemblement qui était destiné à commémorer le massacre de membres de l'ethnie Bedja, perpétré en 2005 à Port-Soudan, et ils servaient aussi ce rassemblement à dénoncer le fait que les victimes n'avaient pas obtenu justice. Donc, après la manifestation, Amar, alors je vais vous dire que les prénoms, parce que les noms sont un peu compliqués, Nadji, Ghazi, Mohamed et Sharif ont été arrêtés par des agents du Service national de la sûreté et du renseignement, emmenés dans un endroit tenu secret. Omar a été interpellé alors qu'il rentrait chez lui. Le 29 janvier, ces 6 militants ont, semble-t-il, été transférés à la prison de Kober, à Khartoum, la capitale. S'il s'avère qu'ils sont détenus uniquement pour avoir participé de manière pacifique au forum en question, Amnesty les considère comme des prisonniers d'opinion. Donc voilà le texte que l'on a quand on reçoit l'action urgente. On nous demande d'écrire aux autorités, de demander qu'ils libèrent immédiatement et sans condition Amar, Nagui, Ghazi, Mohamed, Sharif et Omar, qui sont détenus uniquement pour avoir participé à un forum public. Donc, moi, j'allais envoyer cette action et je reçois une dizaine de jours après, parce que bon, on a toujours un petit peu de temps de latence avant que ça nous arrive, entre le 25 février, libération des jeunes militants soudanais. Donc, les 6 membres du mouvement étudiant ont été libérés. Les proches ont remercié. Certains ont remercié les militants d'Amnesty pour leur action. Il y en avait qui étaient encore plus rapides que nous et qui avaient déjà écrit et qui avaient déjà envoyé. Et en plus, ce qu'ils savaient, c'est que au Soudan, on savait que l'on savait. Et ça, c'est aussi très, très important. On savait qu'une action urgente était partie. Donc, ils ont été libérés le 6 février. Mohamed a été libéré. Il aurait été malheureusement victime d'actes de torture et d'autres mauvais traitements en détention. Amar, Nagui, Ghazi, Sharif et Omar ont été libérés successivement les 8 et 9 février. Alors, le mouvement, il existe toujours. Ils vont sûrement encore essayer de manifester et on sera toujours pas loin pour faire qu'ils ne soient pas arrêtés et torturés. Voilà.
Bien, je crois qu'on approche du terme de l'émission. Donc, on va rappeler les moyens pour nous contacter, comme on le fait à chaque fois. Donc, si vous voulez participer à nos actions, nous demander quelles actions vous pouvez faire ou nous contacter ou nous envoyer un petit mot de soutien ou tout ce que vous voulez, etc. Notre mail, c'est amnesty.evreux amnesty@gmail.com, amnesty.evreux@gmail.com, avec un Y, amnesty, bien sûr. Le site de la section française pour aller signer un tas de choses en ligne et pour aller vous informer, c'est www.amnesty.fr. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Notre site local, bien sûr, que vous avez sur le portail Euraso. Donc là, c'est www.euraso.fr. Sur la page d'accueil, vous tapez Amnesty dans le petit moteur de recherche et vous tombez directement sur notre site. Vous avez les actions en cours, les bonnes nouvelles, notre actualité locale et également toutes nos coordonnées.
Et ils vont avoir le 25 mars où ils vont nous retrouver.
Voilà, tout à fait. Et quoi d'autre ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ?
On a tout dit, je crois.
On a tout dit pour aujourd'hui, c'est vrai ?
Donc
on va quitter les auditeurs de Principe Actif. On vous rappelle que nos podcasts sont en ligne aussi bien sur le site de Principe Actif, principeactif.net, que sur le site de Euraso le lendemain ou le surlendemain de l'émission, le temps qu'on le mette en ligne, c'est très rapide. Donc vous pouvez réécouter toutes nos émissions depuis un bout de temps. Et puis, on va renouveler quand même nos excuses pour le petit cafouillage du début de l'heure.
Est-ce qu'on va l'avoir sur le podcast ?
Non.
Parce que c'est collector, ça.
Oui,
hein,
mais l'enregistrement, dans la panique générale technique, je n'avais pas lancé l'enregistrement. Ne l'ai lancé qu'après le silence et les quelques perturbations du début, puisqu'il y avait un bouton qui était mal orienté sur la console.
Alors, bravo à ceux qui ont entendu notre silence et nos petits bruits bizarres.
Mais je n'étais pas au courant de ces problèmes techniques. Alors, la prochaine émission, bien Renan, voilà, pour une fois, on va vous la donner. Généralement, on ignore la date de la prochaine émission. C'est le 27 mars, toujours de 19 à 20 heures sur l'antenne de Principe Actif. En attendant, toujours soyez vigilants par rapport aux droits humains. On est là pour ça et à bientôt. Bonsoir à tous.
Allez, au revoir à tous.
Bonsoir.
Single, sinon la porte. Navré, ça ne m'intéresse pas. Imagine un peu nos rêves. Vachement trop super, génial. Évidemment qu'on est fiers. Ramassez bien vos ordures. Saluez bien les artistes. Allez, on y va.
Universal.
C'est pour ça qu'on l'a signé.